Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
Et les drôles de dames avec nous jusqu'à 22h, comme chaque lundi, bien entendu. On était en plein débat qui concerne toutes nos drôles de dames, débat lancé par notre Polo. Quel est le rôle des supporters dans le football de demain, simple consommateur ou acteur, après ce qui se passe en Allemagne depuis plusieurs semaines? La gronde des supporters face à l'arrivée d'un potentiel investisseur étranger concernant les droits télé. Alors, t'allais intervenir, mon cher Fred. Alors, en Espagne, c'est un modèle totalement différent de l'Angleterre et de l'Allemagne encore, puisque les clubs appartiennent aux socios, même si là aussi, il y a finalement une cohabitation un peu contradictoire entre l'association pour la plupart des clubs et la société anonyme sportive qui finalement dirige le club pro.
C'est le contrat. Il n'y a plus que 4 clubs en Espagne qui appartiennent aux socios.
Ouais.
Le Real, le Barça, l'Athletic Club de Bilbao, qui mène d'ailleurs 1-0 contre Gérone, et Osasuna. Et sur ces 4, on a 3. Il n'y a que 3 clubs qui ne sont jamais descendus en deuxième division. C'est le Real, le Barça et l'Athletic Club de Bilbao. D'ailleurs, qui s'oppose à l'accord avec CVC? Oh, et qui a porté plainte contre Tebas et la Liga pour l'accord avec CVC en Espagne et qui n'est pas dans l'accord, le Real et l'Athletic Club de Bilbao. Bon, le Barça, si le Barça avait eu de l'argent, ils auraient été contre aussi. Mais après, ils ont été un peu obligés de se coucher pour pouvoir inscrire des joueurs, etc. Ils ont dû un peu négocier avec la Liga. Mais sincèrement, moi, je suis très pessimiste sur le
modèle.
Ouais. Ben non, pas sur le modèle, sur dans l'avenir, dans le foot mondial, sur le poids des supporters. Il va être de moins en moins important. C'est-à-dire qu'un client...
Il va être cantonné au rôle de consommateur.
Bah, oui, de plus en plus, malheureusement. C'est-à-dire qu'un client, client à l'autre bout de la terre va rapporter beaucoup d'argent aussi. Mm. C'est-à-dire qu'avant le supporter, il rapportait de l'argent parce qu'il allait au stade, parce qu'il consommait au stade, etc. Mais aujourd'hui, cette part-là, le ticketing, elle est tellement...
Oh les gars, attention, parce que là, il va se passer un truc de ouf sur RMC. Jean Baumel, on passe en file à la licorne.
Avec une belle percée, une belle récupération de défense de Bordeaux qui a un peu craqué et surtout la met très très bien. Intérieur du pied droit, hop, enveloppé, petit fil intérieur, c'est impeccable. Eh bien, je sentais que les Aminois allaient un peu mieux. Ça se confirme avec ce but à la 30e de Jacklan.
Franchement, la soirée est réussie. On a eu la licorne de
double
de
licorne, les gars, Vénard.
Amiens qui mène 1-0 donc face à Bordeaux.
Oui, donc moi, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt pessimiste sur le pouvoir dans le futur des supporters, parce que les supporters, maintenant, on est dans un monde tellement globalisé avec des revenus qui viennent de tellement partout pour les clubs que la place du supporter, elle est, oui, ça, c'est important encore. Par exemple, le Barça aujourd'hui a tellement de problèmes d'argent que son modèle de socios risque de disparaître. C'est-à-dire qu'à un moment, si le Barça ne règle pas ses problèmes financiers, il va être obligé d'ouvrir son capital, enfin de s'ouvrir, donc d'avoir un capital, donc d'avoir un propriétaire. Donc voilà, peut-être qu'un jour, rappelez-vous aussi, qu'un jour que la Commission européenne pourrait obliger les clubs, à un moment on en avait parlé, à devenir tous des sociétés anonymes, à objets sportifs, comme on dit en France. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un vrai risque.
Ouais.
Et je sais qu'à l'époque,
oui, mais t'as la cohabitation qui est obligatoire avec l'association. Mais c'est obligation.
Non, mais je veux dire, mais c'est-à-dire que le risque de que ça devienne des entreprises, des sociétés comme les autres, commerciales comme les autres, il existe à cause aussi de l'Union européenne. Donc, non, mais sincèrement, c'est une évolution malheureusement négative pour le supporter.
Voilà. Alors, Johan, en Italie, le modèle, c'est aussi des clubs qui appartiennent à des propriétaires. Beaucoup d'étrangers, de plus en plus d'ailleurs, là aussi également. Alors, il y a une grosse mouvance ultra, historiquement également, en Italie. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu juges, toi, le rôle du supporter dans le football de demain?
Alors, je voulais juste d'abord revenir sur ce qu'a dit Fred. Moi, je suis pas aussi catégorique sur la place du supporter. On a l'exemple du Covid, récemment, où on a tous regardé des matchs à la télé, club compris, où tout le monde était déprimé de voir personne dans les stades. Donc la place du supporter, elle est encore aujourd'hui très importante, à la fois dans l'économie, parce que malgré tout, même si tu peux vendre des produits à l'autre bout du monde, les recettes quotidiennes,
Je veux dire, présence physique, quoi.
Je veux dire que si c'était juste pour vendre des produits à l'Aube du Monde, pourquoi tout le monde se battrait pour avoir des nouveaux stades?
Non, mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr.
Donc ça reste encore des supporters qui auront une incidence sur le déploiement économique des clubs. Deuxièmement, sur la capacité à faire et à maintenir ce sport comme l'un des plus importants médiatiquement, de le faire exister médiatiquement, parce qu'on l'a vu que dès qu'il n'y avait plus personne dans les stades, dès qu'il y a des huis clos, tout le monde fait la gueule, les diffuseurs font la gueule, et les diffuseurs sont pas prêts à payer très cher si les stades ne sont plus animés, si tout le monde se met en grève des champs, se met en grève des tifos, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour revenir sur l'exemple italien, les propriétaires étrangers parfois découvrent un peu, même si ils ont été mis au courant, de ce poids des supporters au quotidien qui est pas toujours très sain, parce qu'il y a des typologies de supporters où on n'est pas simplement supporter, mais on est proche de groupes
politisés, du moins, oui.
Politisés de groupes mafieux aussi, on va dire le terme. Ouais. Hein. Ouais. Quand vous regardez le pédigré de beaucoup de leaders de tribunes en Italie, bah bizarrement ça correspond avec des organisations mafieuses pour beaucoup d'entre eux. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup se font buter sur des règlements de compte, hein, notamment. Et donc le poids il est encore important et surtout en Italie il demeure la crainte de la révolte des supporters pour leur capacité à engendrer de la violence.
Ouais, la nuisance.
De la nuisance, ouais. C'est parfois même de la violence. La nuisance, on l'a vu pas plus tard qu'il y a un mois, quand Mourinho est parti. La rébellion qu'il y a eu à Rome de la part de beaucoup de supporters sur le départ de Mourinho, les Friedkin ont été attaqués, des gens au sein du club ont été attaqués, il y a eu des banderoles, il y a eu... En fait, en Italie, il vaut mieux avoir les supporters dans ta poche. Et ce qui freine aussi le développement économique des clubs, c'est que pour faire plaisir à des supporters, bah parfois, t'es obligé de faire beaucoup de concessions, des concessions qui vont pas dans le sens du business. Donc, les supporters, malgré tout, ont encore une place très importante en Italie.
Ouais. Mais cet effet de la violence, on l'a vu, par exemple, souvent, hein, dans des clubs. Et je rappelle toujours, mais je vais encore le rappeler, que quand le président Laporta a voulu nettoyer le stade et virer les Bocchestoys qui étaient des dangereux ultras. Il a été menacé pendant un an. Il a été sous protection policière pendant un an.
Tito, pareil, quand il a fait un ménage.
Lorenzo Perez a viré les ultrasourds qui sont des sombres nazis. La tombe Pitina, la tombe de son épouse, a été profanée par les ultras. Donc à un moment, il faut ça. Et il y a d'autres présidents, notamment à Séville, notamment à l'Atlético à certains moments, etc., où on était content d'avoir les... Voilà,
c'est pour le côté très négatif. Mais... Voilà.
Non, mais juste pour en revenir à ce que tu dis, parce que moi, par exemple, moi, je suis socio, hein, c'est vraiment une conviction que j'ai envie de dire, face au modèle et au débat que soulève Polo. Et pourtant, il y a quand même une limite à ça. Bah, c'est le côté, justement, électoraliste. C'est-à-dire que tu sais qu'à partir du moment où tu as un modèle démocratique, où tu as des présidents potentiels, ou qui se présentent à une élection, ils viennent avec leur programme, ils ont des vrais programmes, ils ont des campagnes, regardez ce qui se passe à Porto en ce moment, des programmes politiques avec des promesses, il y a beaucoup de démagogie, il y a aussi du clientélisme, c'est-à-dire on va contrarier les supporters, on va leur promettre ci ou ça, on va pas dégager les mecs du stade parce que justement ils peuvent voter pour nous.
Ce sujet-là est passionnant, c'est aussi la limite du modèle de Socios. Bien sûr.
C'est pas la limite des modèles des sociaux, c'est la limite démocratique.
Démocratique.
Démocratie est imparfaite.
C'est imparfait, bien entendu. Mais moi, je me souviens de campagne au Real où les mecs promettaient n'importe quoi. Ouais. Enfin, je me souviens quand il s'appelait paix à son âme, Lorenzo Sanz se promet Ribéry, alors qu'on sait très bien qu'il peut pas avoir Ribéry. Mm. Mais il promet Ribéry, il dit, bon, il a pas été élu, il a été battu par Florentino. Mais il y a un moment, voilà, et parce que qui dit démocratie dit politique, dit aussi populisme par moment, et ça empêche un certain développement de club. C'est vrai pour ça, quoi, tu vois.
C'est très compliqué.
Il n'y a pas de modèle parfait, on veut dire. Compliqué. En fait, c'est ça, quoi.
Je vais vous donner deux, trois exemples de ce qui se passe en Allemagne. Lorsque tu sors du côté partisan et que tu essaies de comprendre ce qui se passe, ceux qui veulent l'arrivée de l'investisseur expliquent, et ils ont raison, à juste titre, que dans les années 80, la Bundesliga ne va pas bien. Les stades sont à moitié vides, etc. Or, ce sont les investisseurs et l'argent qui est arrivé en Bundesliga qui fait qu'aujourd'hui, on est à plus de 40 000 spectateurs de moyenne dans les stades. Donc ça, c'est assez intéressant. Au passage, on peut le déconnecter des résultats sportifs, puisque les Allemands gagnaient quasiment tout dans les années 70 et début des années 80 par rapport à maintenant. Donc le rapport du pognon par rapport à ce qui se passe est toujours à déconnecter. Mais ce qui est intéressant, c'est que on ne parle que de l'investisseur. Et comme par hasard, la semaine dernière, Simon Rolfes, qui est aujourd'hui le directeur sportif de Leverkusen qui est détenu par la multinationale Bayer à 100%, donc c'est l'investisseur, il n'y a pas d'association au sens de l'Union de Berlin, par exemple, lui dit, mais un investisseur, et c'est comme si c'était tous les investisseurs. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut comme type d'investisseur? Est-ce qu'il faut des investisseurs locaux? Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde? Est-ce que donc avoir des fonds de pension américains qui n'ont strictement rien à faire du football, ils sont juste là parce qu'ils ont repéré un marché qu'on peut développer et récupérer les billes au bout d'un moment? Est-ce que regardez ce qui s'est passé au Hertha Berlin, ils sont aujourd'hui en seconde division, ils sont endettés comme pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'idéologies en disant l'investisseur c'est forcément bien. Ben non, moi j'ai des dizaines d'exemples en Allemagne où c'est pas bien. J'en ai d'autres où ça fonctionne bien. On en parlait tout à l'heure, le Bayern marche très bien avec ses trois actionnaires. C'est-à-dire il y a pas de révolution, c'est un des plus grands clubs d'Europe, etc. Au niveau des supporters, moi je dis toujours, est-ce qu'il faut une carte d'identité au supporterisme? Est-ce que le débat en Allemagne, c'est à qui appartient le football, en fait? Au-delà de dire, est-ce que le supporter est un consommateur? D'ailleurs, terme qu'on n'utilisait pas il y a 20 ans. Ça montre bien que ça évolue, hein, que le capital génère le capital, comme d'habitude. Excusez-moi de faire mon gauchiste. Mais là, il y a aussi le lexique qui évolue. Ce qui montre que le football évolue toujours dans le même sens. Et tu peux aussi avoir d'autres grilles de lecture. Tu peux avoir l'idiot du village, l'ultra, un peu raciste sur les bords, qui, lui, est contre toute nouvelle évolution, mais tu peux aussi dire, c'est l'idiot du voyage, c'était le mec globalisé, bourgeois, qui pense que New York, c'est pareil que Paris, mais qu'on a rien à péter de ce qui se passe en banlieue ou ce qui se passe en province, et qui t'explique que ce modèle doit être le modèle dominant.
Ben oui.
C'est-à-dire que le mec est ultra minoritaire, mais il a le pognon. C'est-à-dire que c'est la question démocratique, pour moi, elle est super intéressante dans ces cas-là. Et je vais continuer un petit peu. Le supporterisme, de quel supporter parle-t-on? Là, j'ai parlé beaucoup des groupes ultra ou des collectifs de supporters en Allemagne, mais je suis pas persuadé que les 40 ou 50 000 spectateurs
qui
sont dans les stades sont contre. J'en sais rien. Je veux dire, c'est gros point d'interrogation. Moi, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, dans l'évolution, c'est pour ça que je parle souvent d'une carte. D'une carte d'identité du supporterisme. Moi, je suis membre de l'Union. Je sais pourquoi je suis membre. Tu l'as dit pour toi, Nico. Je sais pourquoi je suis membre de l'Union. Je sais. On me demanderait, t'es pour le CVC dans le capital? Je dis non. Je sais pourquoi je serais contre. Maintenant, la Ligue te dit, on a besoin de 600 millions d'euros pour développer la digitalisation en Bundesliga. Et le mec en face, il va te dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire que tu ailles vendre ton match, je sais pas moi, au Japon, à Taïwan, qui tu veux, etc. Tout ça est très compliqué, et surtout, le modèle allemand est basé, l'une des raisons comment ils arrivent à le vendre, c'est le fait que tous les stades sont blindés. Et donc, le supporter, il se dit, mais tu utilises ce que nous on fait dans les stades pour vendre un truc que nous on n'est pas d'accord. Et ça, tout ça, c'est quand même, y a pas de solution miracle, attention. En tout cas, on s'oriente peut-être vers un troisième vote. En Allemagne, et je suis assez d'accord avec Fred, je suis assez pessimiste sur l'évolution. J'ai même entendu des économistes évidemment libéraux qui nous ont expliqué que c'était pas grave qu'il y ait personne dans les stades, de toute façon, vu l'évolution des technologies, on pourra faire de la digitalisation dans tous les sens, montrer qu'il y a des trucs pipeaux, etc., dans les stades, et même s'il y a personne. Donc tout ça est complexe, mais en tout cas, entre le local et la globalisation, je pense que c'est un peu compliqué.
Voilà, et en tout cas, le débat aura été fait. Voilà, ça faisait un moment que tu voulais le faire, mon Polo, et c'est hyper intéressant. On aurait pu faire 2 heures, hein, je pense, là-dessus.
Ah, on aurait pu faire une thèse. D'ailleurs, on fera 2 heures un jour.
Oui, j'espère.